Bonjour auditrices et auditeurs de Micro Rebelle et bienvenue sur cette émission spéciale consacrée à la soirée Mine d'idées qui a eu lieu le 7 juin dernier au Louvre-Lens, organisée par la Fondation de France qui est venue présenter les initiatives qu'elle a soutenues sur le département depuis 2014. Alors Micro Rebelle en a profité pour aller à la rencontre des associations et des mouvements et des organismes que la Fondation a soutenu, et elles sont venues donc discuter avec nous à notre micro de leur centre d'intérêt, de leur action et des futurs projets qu'elles vont mener. Et du fait de la longueur de certaines interviews, on va commencer avec la discussion avec le mouvement ATD Quart Monde et le planning familial 62. Allez, bonne écoute. Bonsoir, donc vous êtes ATD Quart Monde, est-ce que vous pouvez vous présenter et dire pourquoi en fait vous êtes ce soir présent à la soirée Mine d'idées organisée par la Fondation de France?
Ok, donc Michel Place, je suis une espèce de responsable, un militant ATD Quart Monde sur le secteur de l'Ancier-Vin. ATD Quart Monde est une association régionale, hein. Elle est connue au niveau international, bien sûr, et au niveau national. Elle a été créée par le père Joseph Wrzinski, qui disait que la grande misère, c'est une atteinte aux droits de l'homme. Hein. Et c'est vrai qu'on vit dans une société actuellement où on exclut beaucoup de gens. Et ATD Quart Monde s'occupe des gens, des exclus, les plus exclus. Et on n'est pas une société, une association caritative, pas du tout. Notre objectif, c'est d'organiser les gens les plus pauvres, les plus en difficulté, pour qu'ils trouvent en eux-mêmes, en s'organisant, les solutions à leurs problèmes. Alors si on est là, c'est parce qu'on est financé par la Fondation de France, dans le cadre de Mine d'idées, parce que on pense que la culture, c'est un moyen de retrouver sa dignité lorsque on est dans les grandes difficultés. La grande misère, c'est quoi? C'est une accumulation de difficultés qui fait qu'à un moment donné, les gens ne peuvent plus s'en sortir. Ils sont dépassés par les problèmes. Ceux qui ne connaissent pas, ils disent « Ouais, on peut tout le temps essayer de trouver des solutions. » Ben non. Il arrive un moment où les problèmes de santé, les problèmes de travail, les problèmes économiques, les problèmes de logement, etc., viennent tellement impacter la vie et impacter les gens qu'ils ne peuvent plus s'en sortir. Et on pense que, l'économie, elle est comme elle est, c'est très difficile pour eux de retrouver du boulot, de se remettre en route. Et puis ils en ont marre des formations, etc. Donc ils sont au-delà de ça. Et la culture, c'est un moyen de retrouver sa dignité, de retrouver le monde tel qu'il est. Parce que dans les œuvres de l'ancien temps, comme dans les œuvres d'aujourd'hui, les créateurs nous montrent ce qu'ils sont et ce qu'est notre monde. Donc ce qu'on a fait, c'est... je parle beaucoup. Hein. Ce qu'on a fait, c'est faire appel à des créateurs pour qu'ils viennent nous rencontrer. Donc rencontrer les gens les plus en difficulté. On a visité ensemble, puisqu'on a la chance d'avoir le Louvre-Lens à côté de chez nous, on a visité ensemble avec le créateur le Louvre. Ils nous ont parlé des œuvres qui sont là. Ils nous ont un peu dit, en tant que créateur, comment eux, ils voyaient le monde et ce qu'ils parler aux gens, puisqu'ils se disaient, celui qui a fait Léonard de Vinci ou Rembrandt ou un autre, ou Rubens, qui a fait cette œuvre, finalement, il parle comme cet homme-là qui est devant moi ou cette femme-là qui est devant moi. Il parlait comme ça. Et puis, l'après-midi, avec les gens, on a créé. Alors, le premier avec qui on a travaillé, c'est Guy Alouchery, que vous connaissez sûrement. Hein. Et il nous a demandé de faire des masques de la Commedia dell'arte, puisque l'expo qu'on avait vue, c'était celle sur où il y avait le voyage à Cythère. Hein. Et donc, on a fait des masques avec les médiateurs du Louvre, on a fait des masques à TD Quart-Monde, et avec Guy Alouchery, il nous a mis en scène, il nous a demandé d'improviser, de faire de la Commedia dell'arte. Et tous ces gens qui au démarrage ne voulaient pas se mettre en avant, parler, et finalement ils ont parlé de leur personnage, mais ils ont aussi parlé de ce qu'ils vivaient. Et ça leur a fait un bien énorme. Et ça a fait du bien aussi à Guy Alouchery qui buvait du petit lait un petit peu en écoutant. Peut-être que ça va l'aider à faire un travail. Enfin, je pense. En tout cas, il était en prise directe avec les gens, ces gens-là les plus en difficulté. Et où on était tous à égalité. Ce qu'on appelle les alliés, c'est-à-dire ceux qui accompagnent les gens les plus en difficulté, qui sont les militants. Et le terme est bien fort. Ce sont des militants. À TD Quart-Monde, ce sont des militants. Et parmi les alliés, des fois, il y a des anciens militants qui s'en sont sortis. Voilà, je suis bavard. Hein.
Non, mais vous avez répondu à pas mal de questions, du coup. Comment est perçue votre démarche culturelle auprès des personnes que vous rencontrez? Est-ce qu'il y a de la réticence au début? Comment se met en place cette confiance pour mettre en place avec eux des projets culturels?
Alors, au démarrage, ils sont comme tous les gens d'ici. En gros, la culture, c'est pas pour eux. Hein? Enfin, cette culture-là, eux, ils ont une autre culture qui est la culture minière. Hein? Donc, la culture, c'est pas pour eux. Un musée, une salle de concert, c'est pas leur tasse de thé, comme on dit. Hein. Donc l'objectif, c'est de les y amener. Et pour les y amener, il faut des sortes de médiateurs. Et nous, on est en un sens des médiateurs, c'est-à-dire on leur permet de venir, on explique, on les fait venir avec les enfants. Moi, j'ai fait venir aussi des dames musulmanes qui avaient envie de connaître un petit peu ce qu'était la culture ici. Et voilà, donc on ouvre leur esprit à d'autres choses qui croient que ça n'est pas pour eux, alors que c'est d'abord pour eux et ça leur parle. Finalement, au bout d'un moment, ça leur parle. Et on se rend compte qu'ils connaissent plein de choses, qu'ils posent plein de questions, auxquelles parfois nous on ne pense pas d'ailleurs, mais qui sont extrêmement intéressantes. Et les médiateurs parfois ils sont soufflés.
Bah écoutez, merci beaucoup et passez une bonne soirée ce soir. Donc bonsoir, donc vous êtes le planning familial et vous avez été invité ce soir à la soirée Mine d'idées organisée par la Fondation de France. Est-ce que vous pouvez présenter déjà votre organisme et puis expliquer pourquoi vous êtes ce soir présent à cette soirée?
Le planning familial donc, le planning familial 62. Alors le planning familial c'est une association d'éducation populaire qui donc a vocation à rayonner sur tout le département du Pas-de-Calais et qui utilise les méthodes de l'éducation populaire pour aborder les questions de sexualité, d'éducation à la sexualité, de contraception, d'IVG, d'avortement, d'égalité femmes-hommes, de lutte contre toutes les formes de discrimination. de lutte contre les violences, notamment celles faites aux femmes. Louise, est-ce que j'ai oublié quelque chose ?
Donc on est une association féministe aussi, donc de ce fait, on est une association féministe et on a aussi pour vocation d'essayer sur le territoire, en tout cas, de mettre en place, en tout cas d'informer les personnes et les habitants, habitantes, pour que chacun, chacune puisse se saisir des questions donc de santé sexuelle, de genre, et puisse être émancipé et autonome autour de ces questions, et puisse aussi être des personnes ressources pour leur communauté, leur voisinage, leur famille, et qu'on puisse essayer de créer une dynamique autour de tout ça, d'éducation populaire et de féminisme, et voilà, pour une transformation sociale.
Comment a été
un monde meilleur.
Il n'en revient pas, notre intervieweur.
Alors, comment a été accueilli justement un projet autour du féminisme et des libertés sexuelles par la Fondation de France ? Est-ce que vous avez eu des difficultés ou justement ça a été quelque chose qui a été plutôt bien accueilli et bien soutenu ?
Accueilli par la population ?
D'abord par la Fondation de France.
Je pense que la Fondation de France, dans le cadre de son appel à projet, déjà a cherché des porteurs de projets qui justement pouvaient remuer un peu le territoire. Et je pense qu'en ce sens-là, on a eu une très bonne écoute de la Fondation de France, qui, je pense, a compris les valeurs du planning familial et ce que le planning familial pouvait apporter sur ce territoire particulier du bassin minier, avec une tradition paternaliste, matriarcale, etc. Donc je pense qu'on a eu une bonne écoute de la part de la Fondation de France. Je pense pas d'ailleurs, j'en suis sûre.
Et ensuite, justement, par rapport à la population, comment vos actions sont-elles accueillies ?
Ben, globalement, très bien, en fait. Enfin, moi, je trouve qu'on a quand même réussi sur le territoire à mettre en place des projets et à toucher quand même beaucoup de personnes. Donc, je ne pourrais plus exactement vous dire. Je crois qu'on a environ 400 personnes sur l'année dernière sur le territoire. Et à mettre, être surtout dans des projets de fond. De garder le contact et de se former et de pouvoir avoir des personnes le plus compétentes en tout cas avec le plus de ressources autour des questions de genre et de santé sexuelle pour pouvoir améliorer les choses. Et aujourd'hui ça continue, en fait, c'est-à-dire qu'au-delà de un an, en fait, les choses se poursuivent et on continue à tisser du lien, on continue à rencontrer des gens et on continue à mettre en place des actions avec un accueil qui reste quand même vraiment bon.
Alors, pour illustrer un peu vos propos, est-ce que vous pouvez présenter justement une action que vous avez menée cette année concrète avec la population, auprès de la population ?
Ah ouais, je pense que c'est... Ouais. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le planning familial, tout a un peu recommencé à zéro entre 2013-2014. Et donc, il y a plein de nouvelles personnes qui sont arrivées. Et donc, ces nouvelles personnes, elles avaient pas forcément... elles se sentaient pas forcément outillées, équipées autour des questions de genre et santé sexuelle. Et donc, comme elles se sentaient pas forcément outillées... elles étaient en demande qu'il se passe quelque chose, et donc on a décidé de créer une dynamique au sein du local de formation autour des questions de sexisme. Donc on a pu faire des ateliers ou de féminisme. On a fait un atelier sur l'histoire du féminisme et des luttes féministes en parallèle de l'histoire du planning. On a fait un atelier qu'on appelle chat à modeler, donc sur les anatomies des femmes, des hommes. On a fait des ateliers aussi sur la contraception, tout simplement. Et en fait, tout ça nous permettait d'une part de créer une cohésion au sein du groupe de bénévoles, mais aussi de nous enrichir et de petit à petit permettre aux personnes de se sentir ressources et de pouvoir aller dans les stands, pouvoir aller parler avec n'importe qui autour de ces questions-là. Et moi, je trouve que c'est chouette, en fait. C'est vraiment une dynamique collective et d'intelligence collective qui se met en place, sachant que c'est pas des salariés qui vont donner la bonne parole aux personnes, mais aussi les personnes qui vont se saisir de ça et vont pouvoir venir présenter ce qu'ils ont comme savoir, comme par exemple Donald qui est militant et qui est venu parler des questions LGBT. Enfin voilà, j'aurais beaucoup à dire, mais je pense qu'on n'a pas trop de temps.
Voilà, bah merci beaucoup. Bonne soirée.
Avec plaisir.
Merci à vous.
Voilà, c'était ATD Quart-Monde et le Planning Familial 62 qui étaient venus à notre micro pour discuter avec nous de leurs actions et de leurs futurs projets. On continue avec cette fois-ci Culture et Liberté et le Ripper Café de Mazingarbe. Allez, à tout à l'heure. Bonsoir, vous êtes Culture et Liberté et vous avez été convié à cette soirée donc Mindy Day organisée par la Fondation de France. Est-ce que vous pouvez présenter Culture et Liberté ?
Oui, bonsoir, moi je suis Teresa Coustenoble, la coordinatrice de l'association Culture et Liberté pour l'antenne de Lens. Présenter Culture et Liberté, c'est présenter une histoire de plus de 50 ans, parce que Culture et Liberté est née dans les années 70. Il y a environ une dizaine d'associations en France qui fédèrent un mouvement d'éducation populaire. Ce mouvement est fédéré par une association nationale à Paris. Notre antenne et notre association 62 du Pas-de-Calais a trois antennes, Hénin-Beaumont, Lens, Arras, avec le siège social à Arras. Donc vraiment le projet associatif, c'est le mouvement d'éducation populaire.
D'accord. Et comment alors Culture et Liberté s'est retrouvée soutenue par la Fondation de France cette année ?
En 2014, nous avons été interpellés par la Fondation de France pour créer un projet ici dans la région avec d'autres acteurs. Donc on s'est retrouvés à plusieurs réunions pour petit à petit faire évoluer ce projet, le nommer, l'organiser, le coordonner. Et l'appel à projet est né, Mindy Day. Donc suite à ce projet, moi j'ai postulé pour une action qui s'appelle la coopérative des savoirs populaires.
Alors, est-ce que vous pouvez présenter un peu ce que c'est cette coopérative des savoirs
populaires ? Voilà. Alors la coopérative des savoirs populaires, eh bien, c'est vous, c'est moi, c'est Fafa, c'est les gens du quartier qui savent faire quelque chose. On sait tous, on a tous des talents, on sait tous faire quelque chose. Et avec nos talents, avec nos valeurs, avec nos savoirs, eh ben, on se transmet les choses, on crée un atelier et on se transmet les choses. Donc voilà, c'est une transmission de savoir, il y a plusieurs ateliers. Je vais laisser après Fabienne qui est bénévole et qui anime aussi un atelier, qui va pouvoir en parler mieux que moi puisqu'elle vient régulièrement à Culture. À travers d'ateliers informatiques, d'ateliers couture, d'ateliers cuisine et d'autres ateliers, on échange, on partage. Et voilà, c'est vraiment un lieu de transmission de savoir, un lieu d'ouverture sur le quartier et d'ouverture sur le monde. Voilà, je peux peut-être laisser la place à Fafa.
Alors moi c'est Fabienne Berthiaud, je suis bénévole à l'association Culture et Liberté. Alors moi je viens pour animer la couture le jeudi. J'apprends aux dames à faire des ourlets, des petits bords à faire au niveau pantalon, tablier, tous des trucs comme ça. Après j'anime aussi l'atelier cuisine qui est une fois par semaine et on recherche avec les mamans les recettes qu'ils veulent faire, que ce soit gâteau ou le manger, et on fait tous ensemble et on fait de la cuisine ensemble. Et moi pareil, je donne mes idées et les mamans la semaine d'après donnent ses idées pour refaire. Après on fait l'atelier informatique, mais l'atelier informatique c'est pas moi qui le fais. Et puis après on a atelier photo le vendredi aussi. Après il y a un atelier une fois dans le mois voire deux fois, la bourse aux vêtements on ouvre les portes à qui veut venir. Et puis ça, pour les enfants c'est 50 centimes et pour les adultes c'est 1 euro. Il y a de tout, aussi bien pour les enfants de 0 à 18 mois, puis bien plus. Et après pour les adultes c'est pareil. Et puis je pense que j'ai rien oublié, hein, Teresa.
Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a l'atelier Consommons Malin qui est autour de justement de comme la bourse aux vêtements par exemple, où il y a un bénévole qui vient, qui explique par exemple comment il faut acheter, mieux acheter. Ils vont visiter un magasin et puis ils regardent les prix, voilà, c'est ou alors comment faire ses produits ménagers. En ce qui concerne, là, je veux juste reprendre un tout petit peu la bourse aux vêtements. vêtements, ce que je voulais rajouter, moi, c'était que ben, cette bourse aux vêtements, l'argent qui est collecté vient enrichir la caisse d'un groupe d'habitants du quartier de la Grande Résidence qui a décidé de partir en vacances et qui organise son départ en vacances. Donc ça fait un petit peu d'argent pour la caisse.
Ouais.
Voilà.
C'est important pour Culture Liberté d'investir comme ça la proximité, le local.
Ah, c'est notre cœur de métier, je dirais. Ce qui nous intéresse justement, c'est ça. C'est faire avec, faire ensemble. C'est donc le quartier, les gens, se retrouver.
Ensemble, les moments et tout ça. C'est un moment de détente.
Et comment les habitants ont perçu vos initiatives avec Culture et Liberté? Est-ce que ça a tout de suite été apprécié ou vous avez mis du temps avant d'habiter le paysage et de devenir un endroit où tout le monde, enfin tous les gens du quartier pouvaient venir à la fois en tant que simple, comment dire, entre guillemets consommateurs de vos initiatives ou apporter des idées pour faire, pour présenter ou partager des choses.
Alors nous, on évite justement le mot consommation. On est vraiment dans l'idée de conscientisation. Donc les personnes voilà, du quartier connaissent... Oui, ouais. Ça fait combien d'années tu
ça
viens?
Ça fait exactement plus de 14 ans que je suis à l'association, comme bénévole. Et franchement, c'est ma seconde maison.
Alors, des habitants comme Fabienne qui sont très heureux de venir, bah, on parle à l'un, à l'autre, on construit des choses ensemble, des sorties, des ateliers. Fabienne est allée plusieurs fois aussi en vacances. C'est toute une histoire. Hein. C'est une histoire qui est faite de rencontres, qui est faite de diversité culturelle, qui est vraiment fait de faire ensemble. Faire ensemble. Alors bon, des fois c'est plus compliqué, il y a des actions qui ne concernent pas les projets. D'ailleurs, de toute façon, on en est totalement conscient. Si on ne fait pas participer l'habitant, il ne va pas s'y intéresser. Je pense que ce qui est le cœur de Culture et Liberté, c'est vraiment faire ensemble avec les habitants. Les habitants ont leur place. Voilà, moi, je suis coordinatrice, mais je suis ravie que Fabienne puisse animer un, deux, trois ateliers. Voilà. Elle l'a pris, elle est en charge.
Ouais. Il n'y a pas de souci.
Voilà, c'est ça qui est important pour nous. C'est que vraiment, bah voilà, il y a une idée qui monte. Tiens, on aimerait bien faire ça. Bon, bah, qui a envie? Comment on peut le faire? Comment ça se passe? Et est-ce que tu te sens en capacité de l'animer? Bah oui, je me sens en capacité.
Ouais, j'ai déjà animé pas mal d'ateliers toute seule. Thérésa a entièrement confiance en moi. Il n'y a pas de souci. Je touche du bois, pour l'instant, il n'y a pas de souci.
Très bien, bah merci beaucoup.
Merci à vous.
Oui, donc je suis avec Yannick, du centre social de Mazingarbe. Donc Yannick est par ailleurs dans une aventure assez particulière, hein, il s'agit d'un Ripper Café. Alors Yannick, est-ce que tu peux nous parler de ce projet ou de cette activité de Ripper Café, parce que je ne sais pas si elle a démarré ou si elle est encore en projet, puis aussi nous parler de toi, comment est-ce que ça a démarré et où est-ce qu'on en est aujourd'hui?
Alors le Ripper Café en tant que tel est ouvert depuis le mois d'octobre l'année dernière. L'aventure a commencé il y a un petit moment déjà. Moi je suis directeur du centre social depuis 3 ans et assez tôt dans les différents temps d'échange qu'on a avec les habitants qui fréquentent le centre social, c'est question de dire bah voilà plutôt que de jeter je prends souvent l'exemple de la cafetière, bah, est-ce qu'on peut essayer de la réparer, etc. C'est des choses qui étaient un peu diffuses dans, on va dire, dans l'ambiance des débats, etc. Et à un moment donné, on a réussi à aller au-delà de cette idée et de structurer un petit peu tout ça et de monter un groupe d'habitants. Enfin, c'est un groupe d'habitants qui s'est constitué autour de ça. Et on a déposé l'idée auprès de la Fondation de France qui, du coup, nous a accompagnés vers le projet en lui-même. Donc aujourd'hui, actuellement, sur le Ripper Café, il y a des temps où on répare ensemble. C'est-à-dire qu'au Ripper Café, on ne vient pas déposer, par exemple, sa cafetière ou son micro-ondes ou sa machine à laver. et la rechercher une semaine plus tard ou le jour même et qu'elle était réparée par quelqu'un d'autre. Non, c'est pas l'idée. L'idée, c'est on la répare ensemble. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'habitants experts dans plein de domaines, hein, mais ça va aussi bien de la couture en passant par jardinage, en passant par la petite électronique, l'électroménager, enfin bref. Toutes sortes de compétences qui sont disponibles et on dépose, on voit si on peut le réparer et si on est en capacité de le réparer, on le répare ensemble. C'est-à-dire que voilà, concrètement, s'il faut souder, dévisser, etc., vous êtes mis à contribution. Alors, on peut comprendre parfois que bah moi, j'ai pas forcément envie de souder, quoi. Du coup, on peut s'investir différemment dans le Repair Café et par exemple... participer à l'accueil convivial ou si par exemple on a eu aussi par exemple une couturière qui dit bah ouais moi souder ça m'intéresse pas par contre je veux bien compenser en faisant des travaux de couture pour quelqu'un d'autre et voilà petit à petit cette dynamique là elle s'est enclenchée le volet café en fait sur le volet convivialité aussi se développe aussi assez fort. C'est-à-dire que maintenant, même le samedi, il y a une sorte de repas coopératif qui se met en place avec, voilà, bah là j'ai fait réparer mon truc, mais c'est moi qui vais préparer le repas pour l'ensemble des gens qui sont là et qui veulent bien manger ensemble le samedi. En même temps, en parallèle ou à l'initiative, il y a eu l'atelier imprimante 3D qui s'est mis en place, plutôt avec un public jeune, mais finalement il y a eu un public complètement mixte, complètement intergénérationnel. Donc maintenant, on est en capacité de faire fonctionner une imprimante 3D pour imprimer des pièces. Alors soit pour les créer, soit pour imprimer des pièces pour le Repair Café. Et on a mis aussi en place un petit atelier autour des cultures scientifiques qui s'appelle l'atelier des petits génies où dès le plus jeune âge on peut s'initier à l'expérience, à faire des trucs qui font du bruit, à des trucs qui font de la fumée, enfin voilà, les cultures scientifiques, ce qui fait qu'on a un ensemble d'activités dans la semaine autour de cette thématique-là, des cultures scientifiques, de la lutte contre l'obsolescence programmée, etc. On va dire du samedi du mercredi au samedi au centre social.
Très bien. Alors, donc, j'essaie de, pour nos auditrices et nos auditeurs, de nous représenter un petit peu la scène. Donc, comment ça se passe? Il y a une grande salle. Dans cette grande salle, il y a des tournevis, des fers à souder. Il y a l'imprimante 3D. Donc, c'est une espèce de petit Fab Lab, hein, finalement. Hein. C'est ouvert quand? Et moi, je peux venir quand je veux, je dois m'inscrire, ça me coûte combien? Est-ce que tu peux être de plus en plus concret?
Alors, c'est exactement ça. C'est une grande salle où il y a des gens, des outils et des envies d'agir. Alors, on vient si on a envie de venir. La seule règle, c'est pas un service, quoi. On n'est pas je dépose quelque chose et je viens de reprendre une fois que c'est réparé. On répare ensemble ou on s'investit dans le Repair Café, c'est-à-dire on participe à l'accueil, on s'investit différemment. C'est gratuit. On n'a pas besoin d'être adhérent au centre social. Qu'est-ce que je peux dire encore? C'est le samedi matin. C'est le samedi même. Au début, c'était le samedi matin. Mais en fait, ils ont toujours. Ça déborde tellement que finalement, maintenant, c'est même le samedi bien avancé dans l'après-midi, avec la possibilité de prendre le repas ensemble. Il y a une quote-part. Chacun met une somme d'argent. Généralement, c'est 1 euro. Et avec cette somme-là, il y a quelqu'un qui se charge de faire le repas pour tout le monde. Donc généralement il y a une vingtaine de personnes qui participent au repas. Il y a à minima 4 ou 5 habitants experts qui sont là avec leurs compétences. Ça va de la couture en passant par la petite électronique, etc. Et généralement on a une quinzaine d'objets à réparer chaque samedi.
Alors, tu parles des citoyens experts en quelque sorte. C'est des gens de Mazingarbe, c'est des gens que vous avez sollicités ou c'est des gens qui ont été intéressés par la démarche?
Alors c'est les gens qui étaient à l'origine de ça. C'est-à-dire qu'on avait des gens qui avaient envie d'agir, mais ils ne savaient pas, ils avaient des compétences ici et là. Et à un moment donné, notre rôle au niveau du centre social, c'était juste de fédérer ça. C'est-à-dire de faire en sorte qu'on mette bien à plat ce qu'on a envie de faire. Et c'était juste de la méthodologie, quoi. Et donc les habitants se sont... comment dire, il y a eu un premier noyau et après il y a eu du bouche à oreille, quoi. Et donc il y a des personnes qui n'étaient pas forcément de Mazingarbe ou des alentours de Mazingarbe qui, notamment via un article de presse qui était paru dans la Voix du Nord, se sont dit bah voilà, moi je suis ok, je viens tous les samedis, ça, voilà, j'ai du temps, j'ai des compétences, voilà. Donc le cercle grandit de cette façon là
Très bien. Après, je te pose encore deux autres questions qui sont un peu différentes. Toi, tu es salarié. Comment ça se passe? Tu es animateur. Dans le cadre du projet, tu es payé par le centre social, par des subventions?
Alors, moi, je suis directeur de l'association. L'association gère effectivement le centre social et un ensemble de projets divers et variés. Mais on a quand même un pro, un technicien, enfin pas un technicien, un animateur professionnel qui chapeaute un peu tout ça. Donc effectivement, moi je suis rémunéré par l'association, mais le gros du projet, en fait, il est mis en œuvre par des bénévoles. Il y a qu'un seul salarié qui est chargé de faire le lien et aussi de mailler les partenariats. Et d'organiser, enfin pas d'organiser, mais d'accompagner un peu le développement du Ripper Café, parce qu'il n'y en a pas beaucoup des Ripper Café. Et on pense bien que le territoire de Mazingarbe, c'est peut-être pas la bonne échelle. Donc les pistes de réflexion en termes de développement sont notamment celles qui vont se développer là. Tout de suite, l'actualité, c'est le Ripper Café hors les murs, c'est-à-dire l'aménagement d'une camionnette par le Ripper Café pour aller s'installer quelque part et dire on est là, si vous avez des trucs à réparer, on pourra peut-être le faire ensemble. Et l'autre pendant, ce serait le magasin gratuit, parce qu'on s'est aperçu qu'il y a des gens qui nous donnaient des trucs, qui n'avaient pas envie de les réparer, mais qui étaient réparables, et après on ne savait pas quoi en faire. Par exemple des micro-ondes, des choses comme ça. Alors une des pistes qui est à l'étude, c'est de se dire, ben voilà, on va essayer de capitaliser tout ça et de faire en sorte de le redistribuer à des gens qui en auraient besoin. Voilà.
Voilà, effectivement, moi je connais un Ripper Café dans la région, c'est à la Maresse, à Lille. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Magasin gratuit, il y a une expérience qui est très chouette, c'est au LAG, au lieu autogéré à Liévin. Il y a un magasin gratuit qui fonctionne depuis 6 mois et je pense que là il y a effectivement des bonnes idées à prendre. Concernant le Ripper Café, tu sais s'il en existe d'autres dans le bassin minier ou dans le Pas-de-Calais?
Alors, dans le Pas-de-Calais, a priori, il y en a un parce qu'il y a un réseau des Ripper Café. Donc nous, on a adhéré tout récemment au Ripper Café, même si on est ouvert depuis un certain temps. Et il y en a un qui a adhéré aussi, qui s'affiliait, c'est du côté de Boulogne. On n'est pas encore en réseau parce que c'est tout récent, on a juste un échange de courriel. Mais il y a d'autres gens qui ont un peu ces mêmes envies d'agir. Et notamment, on est rentré en contact avec le Book Café à Bruay-la-Bussière, où ils ont aussi une imprimante 3D. Donc là, il y a eu un peu d'échange de savoir et de services entre les deux. On n'en est pas encore du partenariat parce que c'est tout récent, mais en fait, c'est des petites initiatives qui se mettent en place ici et là. Et pour démarrer, nous, l'atelier 3D et le Ripper Café, on a été accompagnés par le Fab Lab de Lille. Paul est venu passer un petit peu de temps avec nous pour accompagner les bénévoles dans la maîtrise de l'imprimante 3D, qui a été vraiment, à un moment donné, le booster pour le Ripper Café.
D'accord. Peut-être une dernière question, si tu veux bien. Donc tu as parlé d'obsolescence programmée, donc c'est effectivement une thématique qui nous est chère. Hein. On est dans une société où le gaspillage, c'est quand même quelque chose qui est une réalité malheureuse. Alors, est-ce que tu sens que c'est une question qui progresse, le fait de réparer plutôt que de jeter et de racheter? Et puis, les gens qui viennent au Ripper Café, c'est qui? C'est des personnes déjà sensibilisés à ces questions de réemploi, ou ce sont des personnes est-ce que tu peux nous donner un profil type peut-être, ou tout au moins une gamme de réponses là-dessus?
Alors, pour être honnête, la vraie question à laquelle ça répond, c'est la question du pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est aussi compliqué, parfois, alors la cafetière, c'est pas forcément le bon exemple, mais remplacer un four micro-ondes, remplacer une machine à laver, etc., c'est parfois compliqué. Et les gens qui viennent là-dessus, viennent pas forcément sur des valeurs de... en premier temps, de voilà, au lieu de jeter, je vais faire ça. C'est plutôt, au lieu de racheter, je vais essayer de réparer parce que ça va me coûter moins cher. Et en plus, je vais le faire moi-même. Donc, on est plus là-dessus, même si on a quand même quelques personnes dans les habitants porteurs qui ont ces valeurs-là, qui militent là-dessus. Quand on parlait dans les comités d'usagers de dire bah, c'est quand même bête de jeter sa cafetière, c'était par rapport à ça. C'était, voilà, on est dans une société de consommation, mais il y a peut-être une façon de consommer qui pourrait être un peu plus raisonnable. Donc on était là-dessus sur le groupe d'habitants, mais sur les gens qui le fréquentent, c'est plutôt des gens qui voient avant tout l'intérêt économique, même si quand même on voit que le fait de proposer un moment de convivialité, de manger ensemble, de boire le café, de discuter, etc., ils viennent aussi pour ça. Voilà. Il y a aussi ce côté lien qui est un atout aussi du Ripper Café.
Bien, Yannick, je te remercie, puis bonne continuation dans cette activité.
Merci à toi, Lucien.
Alors, c'était l'interview de Culture et Liberté et du Ripper Café de Mazingarbe. Alors, on continue. Alors, pour celles et ceux qui prennent l'émission que maintenant, sachez que c'est une émission spéciale consacrée à la soirée Mine d'idées organisée par la Fondation de France le 7 juin dernier au Louvre-Lens. Donc la Fondation était venue présenter un peu les initiatives qu'elle a soutenues sur le département depuis 2014. et que Micro Rebelle en a profité pour aller interviewer quelques-unes de ces initiatives. Alors, on continue les interviews avec cette fois-ci l'association Colère du Présent, Schwed, et enfin, on terminera avec la compagnie Rêvage. Allez, bonne écoute!
Bien, je suis maintenant avec François de Colère du Présent. Alors François, est-ce que tu peux, pour nos auditrices et nos auditeurs, nous expliquer pourquoi Colère du Présent est ici ce soir, pour quel projet, qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors Colère du Présent est une association qui a pour objectif de faire lire et écrire et penser les gens souvent qui sont oubliés, les d'autres côtés de la fracture culturelle. Et donc on est beaucoup sur le terrain. Et il se trouve qu'on a eu le soutien de la Fondation de France pour le projet Mine d'Idées, dans lequel on a injecté des ateliers d'écriture, de dessin, de mise en page. Et donc on a créé grâce à la Fondation de France une collection qui s'appelle Traverse, et qui traverse le bassin minier, et qui permet en fait à différentes personnes isolées de se rencontrer pour créer un livre et pour découvrir les autres livres.
Très bien. Alors, pour être très précis, est-ce que tu peux nous expliciter, bon, tu parles du bassin minier, ça s'est fait avec qui, dans quelle ville, qui est venu, comment ça s'est passé ?
En fait, on a beaucoup de partenaires historiques, hein, et puis de nouveaux partenaires qui sont très variés. Et donc du coup, on essaie vraiment de jouer sur cette variété. Donc ça peut être des gens qui sont à l'école des consommateurs de courrières, ça peut être des femmes qui sont en alphabétisation ou en couture dans une association qui s'appelle Alpha à Libercourt, des gens dans les centres sociaux, ça peut être... voilà, on essaie vraiment d'être très ouvert et d'essayer aussi de s'implanter dans le quartier lui-même et puis de voir qui vient, qui a envie de partager un moment d'écriture, de création. Et voilà, et c'est vraiment ça l'idée, quoi. C'est essayer d'ouvrir le maximum les possibles.
Très bien, alors donc, tu as entre les mains le résultat finalement, hein, les livres qui ont été produits. Est-ce que tu peux nous les présenter, qu'on ait envie de les lire et qu'on sache un peu effectivement comment ça s'est, enfin, ce que ça a donné, à quoi ça a abouti ?
Alors en fait, tout simplement, on s'est dit, c'est quoi vivre dans le bassin minier aujourd'hui ? C'était ça la question de base. Et du coup, chaque groupe s'est saisi de quelque chose, d'un sujet. À Mazingarbe, c'est la question des voisins. Le voisin, c'est quoi ? C'est le plus proche étranger, c'est le plus lointain qui est à côté de soi. C'est à la fois, ça peut être des histoires d'amitié, voire parfois d'amour, mais ça peut être aussi des histoires, des romans noirs, ça peut être énormément de choses. Donc on a le dessin et le texte qui emmènent à chaque fois le lecteur dans une nouvelle histoire. À Liévin, par exemple, pour en citer un deuxième exemple, on a voulu que les habitants, et avec eux bien sûr, parlent de leurs territoires intimes. Ils voulaient partager ce qu'était leur Liévin. Les côtés positifs du quartier Carpentier en particulier. Et donc du coup, on a invité un auteur de très loin, du Havre, qui est venu pour découvrir des territoires très proches, qui sont les territoires proches du cœur. Donc c'est l'endroit où on a rencontré la personne avec laquelle on vit, où on a travaillé, où on a vécu son enfance, etc. Et donc du coup, et là c'est la photo, on a vraiment la photo des habitants. Et donc du coup, par ces deux exemples, on voit bien ce que ça représente en fait, cette collection. C'est vraiment le territoire tel qu'il est vécu plus qu'il est habité.
Très bien. Alors, les livres, le résultat de ce joli projet, de ce beau projet, hein, comment est-ce que je peux me les procurer ? Ils sont en vente, ils sont téléchargeables ?
On réfléchit à créer une plateforme justement pour les voir sur internet. Sinon, il suffit de contacter l'association pour les découvrir et pour les acheter. C'est colèredupresent@free.fr, colère au pluriel. Et puis sinon, on peut aussi nous retrouver sur différents événements comme celui-là ce soir.
Très bien, François, je te remercie et bonne continuation.
Merci.
Donc bonsoir, vous êtes l'association Schwed et vous êtes présent ce soir à la soirée Mine d'Idées organisée par la Fondation de France. Est-ce que tu peux présenter un peu l'association et expliquer pourquoi vous êtes présent à la soirée de la Fondation de France ?
Donc l'association Schwed, qui veut dire « Souviens-toi en Amazir », est une association qui vient de Libercourt, de la fosse 5 de Libercourt, qui a souhaité travailler sur la mémoire des mines et des immigrations dans le bassin minier, et particulièrement l'histoire algérienne. Alors pourquoi ? Parce que l'association s'est créée en 2005, en fait, suite aux révoltes des quartiers. ou dans les pognons publics et dans les médias, ont commencé à remettre en question en fait l'appartenance à un territoire qui est le bas de la France sur le territoire français des immigrés issus notamment en fait de l'immigration postcoloniale, enfin je dirais plutôt nord-africaine. Parce que c'était ceux qui étaient un peu dans le collimateur, on va dire, des médias à l'époque. Et à ce moment-là, il y a eu beaucoup d'enfants de mineurs du bassin minier, dont leur papa avait descendu dans la mine et malheureusement pour certains était resté ou allait mourir de silicose, trouvaient incroyable que ces personnes-là qui s'étaient inscrits dans le territoire et à participer à cette grande histoire qui est celle des mines, qu'on remette en question en fait, l'appartenance de leurs enfants et leur... et eux-mêmes sur la légitimité d'appartenir en fait au territoire. Donc l'important c'était de rappeler, ou en tout cas d'inscrire et de participer, de faire participer les premiers concernés à l'écriture de cette histoire, à réveiller cette histoire, pour répondre à des enjeux du présent. Le but c'est pas d'éterrer le passé pour le passé, c'est simplement travailler sur le passé, comprendre avec les premiers concernés, pour écrire l'histoire en fait, on va dire, particulière, de l'immigration algérienne qui participe à la grande histoire du bassin minier et des mines. Parce que le point commun aussi quand même dans cette région, et on peut en être fier, c'est cette diversité culturelle qui se relie autour de la mine. Le point commun, c'est la mine. On a beaucoup de grands-parents, il y a eu 29 nationalités présentes quand même dans les mines. C'est quand même une diversité sur lesquelles, je pense, aujourd'hui, dans un contexte comme celui-ci, intéressant de réveiller pour pouvoir justement refaire raviver des valeurs qui nous sont chères, qui sont celles de la fraternité, qui sont celles des solidarités. Et donc la Fondation de France a été très intéressée par ce projet, notamment celle qui est la première pierre à cet édifice en fait, à ce projet associatif, première pierre. Il y a eu beaucoup de pierres avant, mais en tout cas celle qui va être l'aboutissement de beaucoup de travail, qui est celle en fait de l'apparition d'un livre qui s'appelle « Les héritiers de la classe des mines et des immigrations », qui a été fait par les premiers concernés, donc les habitants du quartier de la Fosse 5, qui ont été interrogés, leurs grands-parents, avec les petits-enfants qui sont venus aussi interroger les grands-parents, les parents, enfin les petits-enfants qui ont interrogé les parents qui ont fait aussi leurs parents, et ainsi de suite. Enfin, tout ça, ça a été carrément, à un moment donné, des moments où il y a eu de la transmission, il y a eu beaucoup de autour d'un thé, d'un café, quelque chose où on a partagé, où il y a eu de la transmission, parce que la difficulté aujourd'hui c'est qu'aussi travailler l'intergénérationnalité, on s'est rendu compte que la transmission était difficile, il y avait des terrils partout, il y avait des corons partout, mais les gens savaient même pas, enfin les jeunes générations ne comprenaient pas bien tout ce qu'il y avait en fait derrière. Et donc tout ça, ça a permis donc, en tout cas des interviews qui ont été accompagnées par un sociologue, qui ont été accompagnées par le Clercé, qui est aussi des universitaires, pour pouvoir justement trouver aussi une légitimité quand même, une certaine caisse de résonance à ce travail-là. Et là aujourd'hui, normalement, en fin de l'année 2016, on aura certainement, on espère en tout cas, l'apparition en fait de ce bouquin.
Alors, dans ce que tu viens de dire, il y a quelque chose qui est quand même assez intéressant, c'est que, si j'ai bien compris, l'idée de faire cette association, donc CHFED, vient pas forcément de personnes extérieures, mais vient de personnes qui sont d'origine algérienne ou qui ont, suite aux événements de 2005, n'ont pas compris pourquoi on remettait en cause leur appartenance au territoire. Et du coup... c'est une posture assez originale dans la plupart des initiatives qui sont présentes ce soir, puisque la plupart sont des initiatives de personnes extérieures, enfin qui arrivent sur le bassin minier ou qui sont déjà, mais qui vont vers des gens. Là, du coup, c'est plutôt les gens qui ont une histoire et qui ont quelque chose à raconter, qui sont venus ou la volonté est venue d'eux-mêmes. Alors, comment ça a été amené et du coup quelles sont les entre guillemets les difficultés ou les difficultés que vous avez pu rencontrer dans votre projet de mémoire.
Alors une question que je vais faire en deux temps. La première réponse que je donnerai au pourquoi en fait, qu'est-ce qui a pu expliquer effectivement que les premiers concernés se sont auto-organisés pour pouvoir porter ce projet. c'est déjà, premièrement, bah, tout simplement l'histoire du bassin minier, encore une fois, on revient à ça, où dans les années 80, il y a toute une dynamique en fait, citoyenne autour notamment de la marche de l'égalité, marche que nous avons commémorée dans notre association parce qu'elle est porteuse de plein de valeurs et sur lesquelles nous y sommes complètement en adéquation, où en fait ces jeunes de la deuxième génération, c'est-à-dire les enfants de mineurs, se sont organisés dans les années 80 pour pouvoir la marche de l'égalité. Une marche de l'égalité qui a eu une résonance aussi au niveau local. En 85, notamment dans le quartier, nous avons marché. Et donc ces enfants, en fait, qui sont devenus plus grands et tout ça, en 2005, avaient eux-mêmes des enfants et avaient un héritage militant, un héritage autour de ces valeurs, on va dire, de lutte contre les discriminations et de lutte sur l'antiracisme, qui nous a semblé intéressant, où il y a eu tout ce patrimoine-là qui a permis justement cette culture, on va dire, associative et militante. Alors après, les difficultés qui ont jalonné ce projet, c'est de se sentir légitime de raconter. Est-ce que mon histoire, elle va intéresser, en fin de compte ? On a beaucoup de gens qui sont convaincus au début qu'ils n'ont rien à dire. Je pense que ça arrive souvent parfois quand on donne la parole à quelqu'un, ben j'ai rien à dire, c'est pas intéressant. Mais si, en fin de compte, c'est super intéressant. Donc il y avait déjà cette première difficulté. L'association, ça fait 10 ans maintenant qu'elle travaille, elle n'a pas tout de suite fait un bouquin. D'abord, elle a effectivement essayé à travers différents médiums, notamment celle de la culture et par l'organisation de concerts, un rassemblement, on va dire, de ces héritiers, des premiers concernés autour de spectacles qui mélangent à la fois l'identité ouvrière et aussi l'identité, on va dire, particulière amazir ou algérienne, qui me semblait super important, et d'inviter les gens à venir découvrir aussi. Donc il y avait cette double volonté. Après, il y a aussi, dans ces moments-là, toujours la volonté d'être dans des valeurs d'éducation populaire. Et là, il y a eu aussi la prise de conscience qu'il y avait, à fur et à mesure où on avançait, que tout simplement raconter son histoire, et ben, dans un bassin minier en prise sur beaucoup de difficultés, et notamment de vivre ensemble, un vivre ensemble égalitaire, parce que nous on est pour le vivre ensemble égalitaire, c'était pas facile, et que c'était en soi aussi un combat à mener. Et donc l'association a rencontré énormément de difficultés à pouvoir être légitime pour raconter cette histoire. Après, derrière, elle a donc des freins institutionnels, mais aussi des freins au niveau des premiers concernés. Et donc tout ça, il a fallu mettre en confiance, il a fallu effectivement prendre conscience que on peut être fier d'être de cette histoire et que ça intéresse énormément de monde et qu'en plus de ça, ça répond à des enjeux qui sont extrêmement importants pour le présent.
Ouais, alors petite question par rapport à notre époque, on est en 2016 et quel est, enfin, du coup, de votre point de vue à Chfed, l'intérêt de faire un travail de conservation d'héritage autour de la mémoire avec l'ère du numérique, parce que vous avez édité un livre. Quels sont pour vous l'intérêt d'avoir justement cette mémoire conservée sur un support papier ?
Déjà, c'est symbolique. C'est aussi s'inscrire, écrire. On part d'une page blanche où, en tout cas, il y a des personnes qui ont parlé à la place des autres, à la place des premiers concernés. Et le but, c'est, je pense que moi, les histoires, elles ne sont jamais mieux racontées que par les premiers concernés, en fait. Parce qu'elles permettent, en fait, une transmission aussi d'une forme de... Il y a toute une émotion qui se traduit aussi. Il y a toutes des choses que... des gens extérieurs n'auront peut-être pas forcément ressenti. Alors c'est aussi intéressant d'avoir aussi le côté extérieur, mais ça serait bien aussi d'avoir l'autre. Et aujourd'hui, c'est extrêmement important pour nous de l'inscrire, parce qu'elle conduit aussi à rencontrer l'autre. C'est-à-dire que quand on s'assume dans ses particularités, on invite l'autre aussi à questionner sur ce qui est pour lui, en fait, ses particularités et sa norme. Bah ouais, quand on est d'une culture différente, d'une religion différente, et ça nous questionne nous aussi sur nos appartenances, sur notre système de valeurs et sur quoi il repose. Et ça crée aussi cette interaction et qui nous semble vachement important. Donc l'écrire, c'est aussi permettre aussi une rencontre, parce qu'on peut rencontrer un bouquin. Parfois, quand on n'arrive pas à rencontrer un individu, on peut rencontrer un bouquin. Et donc c'est pour nous hyper important. Après, le vecteur du numérique, nous, on est présents sur la toile aussi. Et donc, on peut voir aussi nos actions à travers un site internet, chevette.org. Il y a aussi la création d'un film, parce qu'on ne fait pas que du bouquin, on fait aussi un film avec des jeunes qui ont entre 20 et 25 ans, qui s'est un peu transformé à fur et à mesure du temps avec l'évolution du projet en un film d'auteur porté par l'association Tribu de Roubaix. Qui va bientôt normalement diffusé dans le mois de septembre-octobre. Et puis il y a aussi un spectacle avec des jeunes de 10 à 15 ans qui, avec le travers, 10 à 20 ans, pardon, parce qu'il y en a encore des plus vieux, qui, à travers le rap et le hip-hop, vont raconter cette histoire. Donc voilà, on n'est pas que dans le médium du bouquin, je voulais juste le préciser, on est aussi, et c'est aussi important que des jeunes, parce que là on a parlé de la jeunesse, qu'elles soient aussi. Qui transmet aussi cette mémoire, parce que c'est un petit peu, ça change un petit peu de ces vieux, même si on adore nos vieux et on en prend bien soin parce qu'ils sont plus nombreux, c'est bien aussi d'avoir cette jeunesse qui s'intéresse à cette histoire, parce que l'histoire c'est pas chiant, c'est passionnant, et en plus ça transmet plein de valeurs, et donc c'est très bien.
Alors justement, c'était ma dernière question qui portait sur la jeunesse. Comment vous avez réussi avec votre association et votre projet de mémoire à mobiliser la jeunesse autour de son histoire ou d'une partie de son histoire, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup qu'il y a une partie de cette jeunesse immigrée, pas forcément algérienne, mais qui est des fois en lutte contre contre leurs parents, contre une partie de leur histoire. Comment vous avez réussi les prendre et les emmener dans votre projet de mémoire?
Pas tout simplement en partant d'eux, en expliquant aussi, je pense que nous on croit beaucoup au déterminisme historique dans notre association, c'est-à-dire que si aujourd'hui dans le bassin minier, malheureusement avec toutes les problématiques socio-économiques qu'on connaît, s'il y a eu tous ces problématiques-là, vient bien d'une histoire, vient bien de quelque chose qui conduit à ça. L'arrêt des industries du charbon, je pense, explique en grosse partie quand même un chômage de masse. Et qu'est-ce que connaissent les jeunes aujourd'hui ? La difficulté de faire des études, ou en tout cas de trouver du sens dans des études, où aujourd'hui, il n'y a pas tellement de perspectives d'embauche. Et qu'est-ce que je vais faire ? Et pourquoi je vais me lever tous les matins ? Et pourquoi je vais aller à l'école ? Et donc on part de ça aussi. On parle de ces réalités, de ces jeunes-là qui se retrouvent face à des institutions qui eux-mêmes sont en crise, parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils n'ont pas non plus... ils ont des choses à offrir, mais dans des perspectives limitées ou à court ou à moyen terme. Et donc le but, c'est de dire, au lieu de culpabiliser, de dire que t'es incapable de pouvoir trouver un travail, c'est peut-être aussi de leur expliquer en fin de compte qu'ils n'ont peut-être pas forcément que fautif, que c'est aussi peut-être un système qui crée en fait aussi ces conditions de chômage. Donc là, on est vraiment dans l'éducation populaire pour le coup. Et on les amène aussi à avoir des outils de décryptage. Et donc ça permet aussi de renforcer une forme de dignité, de se dire qu'on n'est pas les seuls coupables. Et en plus de ça, de dire qu'on peut être fier, et il y a eu aussi des luttes sociales dans notre bassin minier, dans cette histoire, où on peut prendre effectivement, on peut prendre comme exemple, pour pouvoir les luttes de demain. Et ça, c'est, je pense, important, parce qu'aujourd'hui, on parle de participation, difficulté de participation. Oui, mais il faut parler vrai, et puis il faut parler de réalité sociale, de difficulté, de colère, de tristesse, d'amour, de plein de choses. Et donc ça passe, quand on parle vrai, quand on parle du grand-père qui est décédé trop tôt, quand on parle de l'immigré qui est parti de son pays pour venir s'enterrer dans les mines, forcément ça les touche parce qu'on parle de leur grand-père. Et donc à partir de là, on est attaché effectivement à tout ça. Et à partir de là, on arrive à créer une adhésion totale et des jeunes qui viennent avec leurs mots à eux, avec leur médium à eux qui sont le rap, le hip-hop par exemple pour le spectacle qu'on est en train de créer qui s'appelle Lettre à nos mines. Ils s'adressent et ils sont en train de dire quelque chose et délivrent un message. Et quand on arrive à les mettre sur scène et qu'on arrive à convaincre des structures du territoire culturel à participer avec nous, notamment le 99 bis sur Wani, le métaphone, ils se rendent compte qu'en plus de ça, leur parole a de l'intérêt et crée de l'émotion chez les gens. Et donc là, on a réussi notre pari. Et en plus de ça, après, derrière, c'est eux-mêmes les porteurs de transformation. Et aujourd'hui, on est ravis de compter dans notre administration, enfin notre CA, le comité d'administration, des jeunes aussi, qui ont entre 20, 25 ans, et qui sont dans notre CA. Voilà.
Sur ces mots, merci beaucoup et passez une bonne soirée.
De rien.
Bonsoir, donc vous êtes ce soir à Mine d'idées, donc un événement organisé par la Fondation de France. Donc est-ce que vous pouvez présenter votre projet ?
Oui, bonsoir, nous sommes la compagnie Rêvage, c'est une association de théâtre qui est basée à Lille et qui travaille depuis 3 ans justement sur le bassin minier, plus particulièrement sur le territoire de Noyelles-Godault, avec évidemment les communes alentours, à savoir Hénin, Carvin, voilà les villes jouxtant cette commune qui est pas très grande, mais fort dynamique culturellement et qu'on avait envie de pousser à pérenniser les énergies qu'elle avait, voilà.
D'accord, et... Comment vous en êtes venu à être porté par la Fondation de France pour l'année en cours ?
En fait, on était en résidence sur le territoire depuis 2014. On a fait une première année où on était un petit peu aidé par la ville, un petit peu aidé par la région, mais ça peinait à prendre corps. Et puis, on a trouvé, en fait, à force de chercher sur le site de la Fondation de France, ce dispositif Mine d'idées, donc qui nous paraissait tout à fait approprié et qui l'a en effet été.
Est-ce que vous pouvez présenter un peu vos actions avec la compagnie Rêvage ?
Alors la compagnie a été en résidence artistique pendant 3 ans sur le territoire de Noyelles-Godault. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? C'est des ateliers qui sont proposés aux habitants, soit les adultes, soit les enfants, des sorties culturelles, des moments de rencontre, de débat, voilà, d'intérêt pour le milieu de la culture et le spectacle vivant plus particulièrement. Là, ils sont allés en fin de troisième année jusqu'à créer donc chaque groupe leur spectacle qu'ils ont joué donc au Centre Matisse, mais également pendant la fête du village des cultures en plein air. Et l'an prochain, ce qui est super, c'est que ça va même déboucher à des clubs amateurs qui vont se pérenniser au-delà même de la présence de la compagnie. Donc c'était ça l'objectif, de pouvoir rendre les habitants tout à fait autonomes et porteurs eux-mêmes du projet. Et c'est ce qui va se passer. Donc on est très content.
Quand je lis la petite description là, qui est fournie pour ce soir pour la Fondation de France, c'est marqué que vous allez vers des publics qui ne se tournent pas spontanément vers la culture. Et là, vous venez de nous expliquer qu'en plus, il y a aussi une volonté de les rendre un peu autonomes, justement, avec ces ateliers qui vont être faits l'année prochaine. Pour vous, c'est important que les personnes se réapproprient le domaine culturel pour... s'exprimer librement.
Pour moi, c'est d'une part totalement fondamental que autour des créations d'une compagnie professionnelle, il y ait un échange avec les publics. Je crois qu'on peut difficilement prétendre, surtout dans des territoires comme ça, effectivement, un peu éloignés de la culture, un peu ruraux, un peu en difficulté socio-économique, de simplement dire on vient, on joue, on s'en va, parce que l'impact fonctionne pas. Et puis parce qu'au-delà de ça, c'est une vraie richesse en fait de transmettre ça, et puis après de les laisser effectivement eux avoir envie, des envies, de les oser. De les aboutir. Effectivement, moi je crois que la culture ça se partage et que ça se pratique, même de façon amateur et surtout, et je trouve ça très très important, cet aller-retour-là, y compris pour la compagnie. Parce que chaque intervenant qui a rencontré ces personnes a été lui aussi nourri de ce temps-là passé à chercher, à imaginer, et je trouve que ça fonctionne vraiment très bien comme ça.
Comment les habitants ont accueilli votre projet et comment ça s'est passé en fait ? Est-ce qu'il y a eu au début des réticences ? Est-ce que ça a été long ?
C'est une bonne question. Oui, effectivement, ça se fait beaucoup dans le temps et dans la confiance. C'est vrai, quand on est arrivé, pour eux, on était une compagnie en plus de Lille. Donc alors vraiment, ça a mis un petit moment à se rencontrer. Et puis, ça se fait petit à petit. C'est à force de proposer des choses différentes, à force de pas lâcher, à force de les convier, reconvier. Et puis, jusqu'au moment où eux trouvent l'intérêt, le plaisir d'être là, comprennent en fait notre démarche. Et alors après, c'est parti, mais c'est vrai que ça se fait avec beaucoup de temps et de moyens. C'est en ça que ce soutien de la Fondation de France est là aussi essentiel, parce que sinon on fait que survoler les choses. Or là, on peut prendre le temps de les faire bien et dans le temps.
Merci beaucoup et passez une bonne soirée.
Merci.
Voilà l'émission spéciale consacrée à la soirée Mine d'idées organisée par la Fondation de France sous Louvre-Lens le 7 juin dernier touche à sa fin. Sachez que vous pouvez retrouver Micro Rebelle chaque semaine sur Radio PFM et sur le site internet microrebelle.fr où vous pouvez retrouver les podcasts, les télécharger ou les écouter directement en ligne. Et sur notre site internet, vous pouvez trouver aussi des chroniques et des reportages que nous mettons directement en ligne pour alimenter notre grille de programmation. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien,
Alors, la musique que nous avons écoutée, c'est le morceau qui s'appelle Long Time Expected par Zvibak. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. À la semaine prochaine.